pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà trop. Non.
Salut tout le monde, c'est Boris et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Vous l'avez évidemment remarqué, je ne suis pas Abdallah Swadri, mais son super sub. En tant que sosie officiel de Samuel Umtiti, il a eu un après-coup du monde chargé et j'ai donc la lourde tâche de lui succéder au micro de Banquette pendant qu'il est parti se ressourcer sous le soleil de Mayotte. Je vais donc essayer d'être au niveau du titulaire habituel et vous proposer un voyage un peu différent cette fois. Après l'interview sans tabou et débordante d'amour pour le football du tacticien Pascal Duprat, changement de décor puisque Banquette vous plonge aujourd'hui dans les recoins les plus sombres du football français et vous dévoile les histoires tumultueuses qui rassemblent footballeurs et voyous. Du milieu historique marseillais en passant par le RC Lens, Lyon ou le Paris Saint-Germain, les auteurs du livre « Les parrains du foot » nous font découvrir les passerelles qui existent en France depuis plus d'un demi-siècle entre deux mondes, celui du football et du banditisme. Avec deux des trois auteurs, Mathieu Grégoire et Brendan Kemet, nous avons parlé de Francis le Belge, Patrick Blondeau, Samir Nasri, les frères Hornec ou encore les affaires judiciaires qui ont touché Karim Benzema. Dans cet épisode de Banquette, il est question de raquettes, d'arnaques, de vrais faux agents en devenir ou déchus, mais aussi de fascination réciproque entre footballeurs et voyous sur fond d'amitié sincère. Allez, comme dirait Abdallah, trêve de blabla, Banquette, saison 3, épisode 3, c'est maintenant. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ravi de vous avoir avec nous à Banquette.
Merci de nous recevoir.
Donc Mathieu, tu es journaliste.
Moi, je suis à Marseille depuis 2009 maintenant, août 2009. Je suis arrivé d'abord pour Le Parisien, illustre maison à laquelle Brendan a collaboré aussi pendant quelques décennies par le passé. Je te vieillis un peu, Brendan. Et donc voilà, j'ai bossé pour Le Parisien à Marseille sur... fallait le faire, mais il en fallait bien. Sur l'Olympique de Marseille. Et pendant 6 ans, avant de passer par Libération et de retourner à Marseille pour l'équipe. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis toujours nos amis de l'OM.
Donc t'as l'air pas si mal que ça à Marseille.
Ouais, je suis très bien installé. C'est une ville assez, assez cool quand on la connaît. Quoi. Faut pas se frayer aux, à tous les règlements de compte.
On va y venir.
Qui jalonne l'actualité.
Et toi, Brendan ?
Alors moi, je suis un pur produit du Parisien à l'origine. Hein. J'ai passé une quinzaine d'années là-bas et c'est là que je me suis passionné de faits divers en fait, c'est parce que c'était quand même le canard, on va dire, des faits divers pendant longtemps et un peu encore aujourd'hui. Après je suis passé par France Soir et depuis je sais pas une demi-douzaine d'années là je suis indépendant, je travaille pour différents médias, Paris Match, GQ. Et puis voilà d'autres choses entre autres.
D'accord. Alors, pour commencer, comment allez-vous ?
Ça va, tout se passe bien.
Parce que moi, je me demandais, après un livre comme ça, on n'est pas suivi, on se sent bien, on se sent pas observé.
Bah, on essaye d'être vigilant sur les retours qu'on a, en fait. On a une famille d'un garçon dont on parle dans de deux frères dont on parle dans le livre, qui moi, m'a contacté sur Facebook, dont un qui était une victime de règlement de compte. Donc après, faut faire un peu, faut écouter, en tout cas, voir ce qui se passe, dialoguer parfois avec des personnes aussi à Marseille. J'ai fait une librairie où j'avais quelques anciens du quartier d'Andoum qui connaissaient un ou deux voyous cités dans le livre. Donc, il l'a ramené un peu. C'était intéressant de se confronter à ça. Et, ou encore, là, moi, par exemple, dimanche soir, on m'a dit, faut plus trop écrire. J'étais au restaurant, faut plus trop écrire sur Grimaudo, quoi. Qui est un des personnages aussi dans le livre, qui est victime aussi d'un règlement de compte. Bon, avec lui aussi un beau pédigré. Donc voilà, faut être prêt à ça, quoi.
Brendan, toi aussi ?
Quelques retours, mais enfin rien de très méchant. Enfin, des gens parfois pas forcément très contents d'être dans le bouquin, mais bon, pas de menaces quand même ciblées. Voilà, peut-être, je suis pas certain qu'encore il ait été lu partout. Hein. Ça vient progressivement. Il y a un petit décalage avec avec le lancement du bouquin, on va dire.
Pas de retour positif de gens qui pourraient être cités, parce que parfois on sait qu'il y a des... Bah, on aime bien se mettre en avant et c'est quelque part une façon d'être médiatisé aussi quand on passe par le banditisme ou la délinquance, ça vient flatter certains égos parfois. Donc être dans un livre, est-ce que ça peut pas être aussi un peu positif pour des gens comme ça?
Alors effectivement, il y a un personnage dans le bouquin qui est assez redoutable, on va dire, et dont on a appris qu'il avait offert le bouquin dans son entourage. Donc bon, alors c'est plutôt une satisfaction pour nous. Ça veut dire qu'on a pas si mal travaillé que ça, quoi.
Ouais, on a des retours. C'est toujours assez marrant les retours parce que des personnages concernés, par exemple Nasri, qui est l'objet d'un chapitre où on raconte son association avec un ancien braqueur dans des commerces.
À la chicha, hein.
Dans les chichas, ouais. Nasri, quand il a lu le livre, le chapitre le concernant, un des trucs sur lequel il a tilté, c'est qu'on explique à la fin où il était à Marseille cet été, dans une chicha à Marseille, sur le Courlioto, le Ghost. Et c'est le truc qui l'a emmerdé, quoi. Mais comment ils ont su que j'étais au Ghost tout l'été? Parce que il est suspendu en ce moment, là, pour des questions de produits antidopants. Donc, on est sur un truc anecdotique. Mais lui, il a un peu tilté là-dessus parce qu'il se dit, putain, il y a des mecs, ils ont balancé dans mon entourage pour dire où j'étais tout l'été, quoi.
Comme quoi, finalement, c'est pas toujours les détails auxquels vous avez apporté de l'importance qui vont ressortir aux yeux des concernés.
Mais clairement, c'est le grand danger de ce genre d'exercice, hein. C'est que il y a des choses qui vont nous faire marrer. Par exemple, sur la vie privée, des copines, des machins, etc., des choses comme ça. Et c'est là, en fait, le danger. C'est pas le meurtre, le braquage, nécessairement, qui va poser problème. C'est le petit détail de la vie privée. Et ça, il faut faire hyper attention. Et on n'a pas toujours conscience d'écrire des choses dérangeantes au moment où on les écrit.
Ça, c'est un vrai problème, notamment, que ce soit entre les voyous qui, des fois, spiquent un peu leur femme et leur maîtresse, ou alors même les footballeurs. Ça, c'est une question encore taboue. Il y a une vraie... J'en parlais à Marseille, c'est vrai que lors d'une conférence, les femmes de l'assistance étaient choquées par la façon dont les femmes étaient vues dans ces deux milieux-là. Une vraie objectivation de la femme. Et en fait, si vous parlez, vous allez trop dans ces questions-là, ça, les footballeurs, ça peut être un vrai problème. C'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez sur, encore une fois, je reviens à Nasri, ses amitiés, les voyous, etc. Mais alors, si vous commencez à dire qu'il a rencontré le voyou parce qu'il était à telle boîte, ou parce qu'ils ont jeté des nanas dans les pattes, là, ça peut créer des vrais problèmes. Ça, il y a des questions comme ça très taboues, notamment les femmes et qui sont pourtant un moyen d'approche de beaucoup de voyous.
Parce que ça a une incidence sur leur image de personne publique.
Ouais, image sur la personne publique et puis la famille, tout simplement. On sait que voilà, les footballeurs, ils ont cette image. On l'a encore vu avec les Bleus en Russie. Ils ont la famille officielle, quoi, hein, la famille régulière avec Madame et les enfants qui viennent voir les matchs, qui sont la caution, la façade. Et après, certains, pas tous évidemment, mais certains ont une vie beaucoup plus mouvementée en coulisses.
Oui, puis on peut voir que l'exemple de Karim Benzema que vous abordez dans le livre, il y a eu une vraie incidence, même si on voit que juridiquement, en tout cas, c'est un peu compliqué d'établir la causalité, en tout cas, qu'il y avait entre lui, ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu faire, etc. Il n'y a rien qui a pu être établi, en tout cas. Mais ça a eu une vraie répercussion, en tout cas, sur le sportif, où il a quand même les Bleus. On peut dire que les affaires auxquelles il a été mêlé, même s'il s'avère qu'il n'est pas condamné et qu'il n'a peut-être même rien fait de précis dans le cas présenté, ça a eu des répercussions sur le sportif. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils contrôlent à ce point-là leur image, les footeux, ou il y a autre chose derrière?
En fait, Karim Benzema, c'est une affaire hyper particulière aussi parce que c'est quand même une histoire d'amitié. On l'a écrit et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde répète. Hein, il part solidairement avec son camarade qui se lance dans une affaire, enfin qui se serait lancé dans une affaire de chantage. On va parler au conditionnel puisque ce n'est pas encore jugé. Et voilà. Après, c'est tout les de savoir si Benzema était au courant ou pas. Mais en tout cas, enfin, ça concerne lui. Ça concerne pas tellement sa vie privée à lui. C'est plus il part là-dedans. Mais ça arrive beaucoup hein, dans le bouquin des histoires d'amitié qui font que on en arrive à des affaires parfois de voyous. Quoi. Et ça va parfois ensemble. Ouais.
Ouais, Benzema, c'est son copain, donc Karim Zenati, qui se fait manger le cerveau, on va dire, par les maîtres chanteurs présumés de cette histoire de sextape, qui ont en leur possession la sextape de Valbuena. c'est une histoire de pied nickelé. Hein. Ils mangent le cerveau. Ils viennent, l'un d'entre eux vient à Madrid. Ils mangent avec Benzema, Zenati, un autre larron. Et au départ, c'est pour des coussins Vuitton, des contrefaçons, des coussins à 3000 euros le pièce. Hein, donc ça pourrait être pas mal pour les studios, là.
Merci.
Et donc, après, il y a cette histoire de sextape. Benzema, ça le fait pas trop rire parce que ils aiment pas trop, encore une fois, les trucs sur la vie privée, et ça le fait pas rire, Benzema, que les gars aient une vidéo de Valbuena avec une femme, voilà, en leur possession. Mais après, l'ami de Benzema, le meilleur ami, bah, Zenati, il rentre dans cette histoire-là. Et il lui dit, Karim, est-ce que tu peux m'aider? Enfin, en tout cas, est-ce que tu peux approcher Valbuena? Ils ont cette conversation qui est attestée par les différents acteurs à Clairefontaine. Et c'est là que c'est le point de départ pour Benzema de cette chute libre, en fait, parce qu'il rentre dans l'histoire comme ça. Donc, on voit que cette amitié d'enfance, pour honnêtement des broutilles, même à l'échelle de ce qu'ils gagnent, hein, on n'a pas été là-dedans, on n'est pas dans une histoire ni même d'escroquerie ou de... Pour nous, c'est peanuts. Mais on raconte une amitié entre un gars, quand même, son ami Zenati, qui a un beau CV, et Benzema.
Parce qu'on voit dans le livre qu'il y a différents niveaux dans les histoires, les liens. Là, on fait référence à une histoire d'amitié, hein, comme ça peut être le cas pour Nasri aussi, où il y a des amitiés anciennes, en tout cas. Ils ne se sont pas rencontrés hier. Après, on a aussi d'autres situations où on a du mal à voir comment finalement ces gens-là arrivent à avoir accès aux joueurs de foot. Parce que on a l'impression que tout est sous contrôle quand on est un sportif de haut niveau, qu'on a un entourage, qu'il y a des agents qui sont là qui vont contrôler le juridique, d'autres qui vont être là autour de la communication, d'autres plus sur le sportif. Et puis là, on voit qu'il y a quand même certaines personnes qui arrivent à se frayer un chemin. Je pensais à Ribéry, où on se dit comment il est fait pour rencontrer. J'avais du mal à l'imaginer dans un snack où il a rencontré.
Bah, hyper facilement, en fait, parce que c'est vraiment, il y a des points de vue, des points communs entre les voyous et les bandits. Et c'est d'ailleurs, ce qui nous avait donné l'idée de ce bouquin. C'est que, venant du fait divers, on voyait apparaître dans des dossiers de bandits des footballeurs. Notamment, ça avait été le cas de Patrick Barhul, qui était un joueur un peu, pas une star, hein, qui jouait à Lens et à Nice, et qui s'est retrouvé dans une histoire de plan qu'il avait loué, quand même, il avait loué un appartement à son nom, mais qui servait de plan qu'à un bandit corse. Donc, c'était quand même un type en cavale depuis des années. Pas un enfant de cœur, quoi. Et on essayait de comprendre, mais comment ça a pu arriver, ce truc-là? Mais tout simplement, c'est que, en fait, par des histoires d'amitié, il avait un copain, Cyril Roll, qui jouait avec lui à l'époque, qu'il avait mis en contact avec des gens de la Brise de Mer. Tout ce petit monde s'était rencontré en boîte de nuit. Les gens se présentaient pas vraiment. Ils disaient pas bonjour, salut, je suis un voyou, j'ai braqué un fourgon, etc. Non, c'est pas comme ça. C'est les mecs qui tiennent, c'est les mecs qui flambent, qui ont en fait les mêmes, j'ai l'impression, hein, moi je suis pas un spécialiste du football, c'est plutôt Mathieu qui pourra dire ça, mais qui ont un peu les mêmes, rythme de vie, la
les
fête,
mêmes codes.
Les mêmes codes parfois, ouais, pour la nouvelle génération, ouais, ouais. Ou même non, mais même,
ou les
même l'ancienne,
aspirations,
en fait.
Alors
même l'ancienne.
Les codes et les aspirations, un peu de d'avoir une belle
vie. Moi, j'y vois deux trucs, en fait. Alors, il y a les mecs qui se font, il y a des footballeurs, ils se font chier parce que une vie de footballeur, c'est quoi? C'est une heure et demie d'entraînement par jour, quelques soins en plus, et après, il faut bien l'occuper. Donc un mec comme Ribéry, c'est quelqu'un de très nature peinture, et lui, il est devenu pote avec tout Marseille, en fait, et notamment les quartiers les plus populaires. Il prenait son nom de musulman, Bilal. Il allait à la mosquée, prier à la mosquée à Belzunce à Marseille. Il allait dans les bars tabac, il sympathisait avec tout le monde. Il allait se faire coiffer chez Taher, ouais, c'est ça, qui est l'un des coiffeurs de Félix Piat, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de France et d'Europe.
Que ça explique sa coupe de cheveux
Peut-être, ouais. Mais il avait une vie, c'est plutôt pas mal. Mais pareil, il y a les autres coiffeurs, aujourd'hui les joueurs de l'OM type Maxime Lopez et d'autres, vont se faire coiffer chez Lorenzo Style, en plein cœur de Marseille, dans un quartier populaire en bas de la plaine, quoi. Donc, où ils font des coupes à 10 euros. Hein. Donc, ils ils ont quand même besoin de se confronter à un quotidien. Et Ribéry, c'est, lui, il ne pouvait pas se voir à la maison avec trois Doberman, à jouer au golf, à faire du practice dans son jardin. C'est impossible pour lui de voir ça. Et puis après, comme disait Brendan, je pense que c'est aussi des questions de lieu, de train de vie. On les retrouve dans les, que ce soit à Paris ou à Marseille, on les retrouve dans les mêmes boîtes de nuit, on les retrouve chez les mêmes concessionnaires. C'est un tout petit milieu et c'est le milieu des très riches, quoi, ou ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de cash, et donc on le dépense ensemble, quoi. Et là, c'est là que ça peut faire une association.
Alors dans le livre, on voit quand même qu'il y a des spécificités un peu géographiques hein, en fonction des villes. Il y a des influences différentes en fonction des milieux. Il y a peut-être comment dire, les quartiers sont peut-être plus présents à Paris. Ça c'est un renouveau des relations entre voyous et joueurs. C'est différent. Enfin, on a le sentiment que c'est foncièrement différent ce qui se passe à Marseille et ce qui peut se passer dans le reste de la France. En tout cas, sur la nature des liens et comment il y a quelque chose qui existe vraiment autour de la ville de Marseille.
Bah, Marseille, je commence. Brendan, toi, tu feras la région. Marseillienne un peu, non, je dis ça, mais il connaît aussi bien Marseille que moi, Brennan, notamment l'histoire. Et en fait, moi, je pense que c'est une question, et Brennan va enchaîner sur ça, parce que c'est Marseille et la Corse sont des creusets depuis près de 80 ans du grand banditisme, de ce qui s'apparente le plus à une mafia, avec des liens avec les politiques, sur les marchés publics, des liens internationaux de trafic de drogue, des liens aussi avec les casinos. Enfin voilà, ils ont investi dans plein de domaines. Il y a un véritable savoir-faire dans cette région. On peut aussi élargir aussi un peu la Côte d'Azur. Donc il y a un véritable savoir-faire. Donc il n'est pas fou que ces mecs-là, un jour, même c'est presque logique qu'ils soient allés vers le foot, parce que dans les années, eux, ils vont vers là où il y a de l'argent. À Marseille, par exemple, les vieux voyous, ils pariaient, maintenant ça se fait moins, ils pariaient, mais même sur les parties de pétanque. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de gens qui venaient jouer à la pétanque à Borély, et en fait, ils prenaient des champions à eux, et après, ils pariaient sur leurs champions contre les touristes qui passaient et tout. Évidemment, les touristes se prenaient des volets. Et eux, ils se faisaient un fric monstre rien que sur les paris de pétanque. Après, ils ont été dans le hippisme, le PMU, avec les arnaques au PMU dans les années 70. Et là, arrive Bernard Tapie dans les années 80 à Marseille. Le début du foot business, il était évident qu'ils allaient... Bon, ils aiment le ballon, mais aussi, ils aiment surtout l'argent, qu'ils aillent vers ça.
Ouais, en fait, il y a une ancienneté de Marseille parce que ça commence avec Tapie, donc ça fait 30 ans. Donc ça fait 30 ans qu'il y a des superstars. Bon, faut se souvenir, Tapie, c'est Chris Waddle, c'est des stars planétaires. Et donc déjà, il y a une antériorité. Donc des mondes qui sont fréquentés à l'époque. Et puis tout le monde connaît la passion des Marseillais pour le foot. Donc déjà, c'est presque physique, quoi. Donc il y a des liens anciens. Mais par contre, je dirais qu'en région parisienne, il y a un rattrapage énorme ces dernières années parce qu'on a un phénomène qu'on voit en équipe de France, c'est les jeunes issus de cités qui arrivent au top niveau et qui commencent à brasser énormément d'argent. Et ces joueurs-là, ça attise des convoitises. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé. C'est que le phénomène qui existait à Marseille il y a 30 ans, on parle de Marcel Dib et tout, qui étaient les grands joueurs de l'OM, c'est un mec qui a ouvert des commerces, un monsieur, on va dire, pardon, qui a ouvert des commerces avec des voyous, qui venaient chercher des gens de la brise de mer Corse à l'aéroport, etc. Donc déjà, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, en Île-de-France, il y a la même chose. Chaque footballeur de talent qui vient d'une cité a un gars qui a envie de se mettre là-dedans, qui a envie de palper, qui a envie de profiter de l'argent, on parle quand même de millions d'euros parfois sur les transferts, qui veut à la fois gagner de l'argent et qui est passionné par ce milieu, parce que c'est valorisant quand même d'avoir un ami. D'ailleurs, on le voit dans les conversations, il y a des écoutes, tiens, je suis en boîte de nuit, il y avait Thauvin, il y avait machin, etc. Donc, ils se valorisent par ça. Et puis, ils essayent de gagner de l'argent, tout simplement. Il y a aussi un phénomène qui m'a marqué. Moi, je ne connaissais pas ça, mais c'est par exemple, c'est les maillots. Un maillot de foot, par exemple. Le gars qui offre des maillots de foot, signé et tout, c'est un mec puissant, non, Mathieu, hein, tu dis, ah, tu veux un maillot de foot, attends, tu veux le maillot de Thauvin, tu veux le maillot de machin, je m'en occupe. Et il se valorise énormément avec un maillot signé, quoi. Donc, c'est une carte de visite, quoi, d'avoir un footballeur connu. Puis aujourd'hui, on voit quand même la notoriété de gens en équipe de France. C'est monstrueux, quoi. Donc, ils en profitent aussi, quoi. Ils veulent en profiter, en tout cas, certains.
Alors, il y a quand même différentes typologies du lien, en tout cas, qui lie le footballeur au voyou. Parce qu'il y a le voyou qui veut être ami avec les footballeurs, il y a le voyou qui veut plumer le footballeur, parce qu'on a vu aussi ça, on voit ça pas mal dans le bouquin, que si on devait faire un organigramme, ils sont pas tous dans la même famille, quoi.
Non, c'est sûr qu'il y en a. Bah après, ça dépend de la personnalité du voyou. Effectivement, souvent, le plus souvent, ça commence quand même par des histoires d'amitié. Hein. La plupart dégénèrent, par contre. Il y a rarement des cas comme Zenati et Benzema qui sont fluides, en fait. Aujourd'hui, Benzema et Zenati sont tout le temps encore ensemble. Ils étaient à New York en vacances en juin. C'est l'amitié pure, quoi. Mais on voit beaucoup d'histoires. Nasri et Achoui, ça se termine mal. Ribéry a pris des distances avec quelques-uns aussi de ses amis marseillais. Donc, il y a effectivement ces histoires-là. Et après, il y a quand même aussi soit des vrais escrocs, des vrais méchants. Je pense. Brandon va me corriger, c'est Marocchino ou Maro. À chaque fois, Jean-Louis Marocchino, voilà, parce qu'il faut pas se tromper, lui. Et Jean-Louis Marocchino, qui était un neveu de Francis le Belge. Alors lui, racketter Jean-Michel Patulacci, le patron de Barraex, et Fabien Barthez, pour lui c'était la même chose. Hein. C'était juste qu'il y avait peut-être plus d'argent à se faire avec Barthez. Donc lui, il y allait comme ça. Effectivement, c'était plus une vache à lait, on y va, quoi.
Et c'est il se gargarise de racketter ou Fabien Barthez, ou c'est un client comme un autre?
Alors, cette histoire de Fabien Barthez, elle est particulière. C'est une histoire, en fait, qui n'a jamais été racontée véritablement avant nous. En tout cas, pas avec le nom de Barthez. Et elle est, en fait, on s'est rendu compte qu'elle est ultra connue. C'est-à-dire que si vous allez à Marseille, vous parlez à un voyou et vous dites, vous vous souvenez de cette histoire de Barthez alors, on connaît même la boîte où ça s'est passé, le Mai Tai. Le fameux Mai Tai entre Bandol et Sanary, dans le Var. Donc, tout le monde connaît cette histoire. Et en même temps, personne n'en a véritablement parlé pendant 30 ans, quoi. Il y a tout un mythe autour de ces histoires de footeux, de l'argent qu'on peut faire, etc. Pour le coup, ça c'est pas, ça c'est, enfin, je sais pas, on n'a pas très bien compris d'ailleurs s'ils avaient versé de l'argent, il y a eu des interventions, c'est monté assez haut cette affaire, parce que Barthez c'était quand même, même s'il était encore très jeune, c'était déjà le gardien de l'équipe de France quasiment, quoi.
Ouais, il était peut-être encore derrière Lama, mais en tout cas c'était gardien champion d'Europe, quoi, 93 avec l'OM, donc. C'était pas un perdreau de l'année. Donc voilà, là, lui, il symbolise bien l'objet de convoitise que peut être le footballeur. Et je compléterai ce que disait Mendan tout à l'heure sur aujourd'hui ce qu'on voit, notamment dans les cités. On voit des joueurs qui, enfin, des voyous, mais alors après, c'est, on va dire, un entourage élargi. Ça peut être aussi bien la famille, les cousins, que des mecs un peu moins recommandables de la cité. Ils vont se placer sur des petits dès l'âge de 10 ans, quoi. Ça devient un investissement sur le futur. Ils rêvent tous maintenant d'avoir le futur Mbappé, quoi. Parce qu'encore, à l'époque, on disait, ouais, tous les parents, ils voient en Zidane, ils pensent que leur fils est le futur Zidane. Mais encore, Zidane, il est arrivé, il a un parcours assez classique, il est arrivé à 22 ans à Bordeaux, à 25 ans à la Juve. Ça reste une histoire normale, parce que c'est les débuts du foot pro, quoi, vraiment, enfin, au foot business, quoi. Mais là, les Mbappé, maintenant, on voit qu'ils sont. Mbappé, sa carrière, elle pouvait déjà se goupiller à partir de 10 ans, quoi. On pouvait déjà l'imaginer. Donc aujourd'hui, les petits prodiges dans les cités, je peux vous dire que c'est un énorme investissement. À côté, le PEL, les assurances vie et tout, c'est nothing. Hein.
Alors du coup, on pourrait se dire que la course effrénée à trouver la nouvelle pépite, ça suscite des vocations légales, ou au contraire, j'aurais tendance à croire que ça pourrait, en tout cas, on pourrait se dire, c'est plus intéressant de trouver le nouveau Mbappé et de se faire de l'argent proprement que d'aller prendre le risque de racketter ou d'arnaquer un joueur pro.
Il y a un peu de tout, et c'est aussi une ouverture pleine d'espoir qu'il y a dans le livre, c'est qu'on voit apparaître aujourd'hui les premiers agents issus justement de des cités et qui sont très bons dans leur domaine. On avait eu Karim Jaziri, bon là qui vient de se séparer, Karim Benzema vient de s'en séparer, qui était son agent historique.
Très récemment.
Hein. Très récemment, ouais, la semaine dernière, ouais, le week-end dernier. Donc ça, c'était peut-être un des premiers exemples. Mais là, on a le témoignage de Moussa Sissoko dans notre ouvrage, qui raconte son passé de voleur, et puis qui est devenu un mec. Lui, il a commis des vols, après il a eu un kebab dans sa cité, et puis après il s'est lancé, et aujourd'hui c'est l'agent d'Ousmane Dembélé, etc. Et je rajouterai aussi issu de la diversité, même s'il a un parcours il est entre les banlieues et un milieu un petit peu plus aisé, on va dire, mais classe moyenne. Mais je rajouterais Meissa Ndiaye aujourd'hui, qui est d'origine sénégalaise et qui est dans le classement Forbes des 8 plus gros agents mondiaux. Il est 7e avec, je crois, 18 millions d'euros de commission sur les derniers marchés, les deux derniers mercato d'été. Donc, c'est l'agent de Benjamin Mendy. Donc, voilà, c'est des exemples, ça, de réussite positive.
Et à peine 10 ans d'ancienneté dans le métier,
mais
c'est ça ?
Meissa Ndiaye, 10 ans d'ancienneté, exactement, ouais, 9 ans. Ouais,
il s'est lancé en 2008 ou un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça, exactement, ouais, avec... Oli, enfin je sais plus, un joueur qui est à Cardiff aujourd'hui, Souleymane Mbamba, voilà, pardon, qui est son premier
au
joueur.
PSG aussi, Souleymane Mbamba.
Et voilà, qui a dû faire ses classes quand il était jeune,
PSG,
voilà,
ouais.
Exactement, Souleymane Mbamba, après agent de vainqueur, Batshuayi, Mendy, aujourd'hui Emiliano Sala à Nantes et d'autres, quoi. Mais voilà, c'est un exemple, ça, vraiment très, très positif. Effectivement, le foot, à côté, ben, on voit plein de parcours différents, quoi.
Alors, on va revenir un petit peu aux prémices, hein, du milieu et du football qui se lie. On en parlait un petit peu au tout début. C'est quoi ? On parlait d'appât du gain, c'est les transferts qui ont permis d'accrocher. C'est quoi ?
Il n'y avait pas que les transferts, parce qu'on raconte une anecdote qui était assez méconnue sur Jean-Pierre Papin, qui au début a été prise en main alors par cet agent, l'ineffable Gilles Berceau, mais qui lui a fait tout faire à l'époque, parce que on est quoi, dans les années 88, par là, 90, c'est les balbutiements, on va dire, du business, du foot business, et il lui fait signer des contrats pour chanter, pour faire des écharpes, etc. Enfin, c'est dès qu'il y a de l'argent. On voit bien, ils font des contrats de sponsoring, il y a toutes sortes de choses, ils se mettent dans tous les voies. Enfin, bon, Gilles Berceau, c'est plus quelqu'un, un escroc, on va dire, puisqu'il a été condamné à de multiples reprises, mais qui était très proche de gens, on va dire, assez péchus dans le banditisme. Mais voilà, c'était chaque interstice, pardon, est intéressante. Ça va être les transferts, évidemment, c'est sans doute le summum, parce que y a eu des sommes énormes et beaucoup de rétrocommissions et beaucoup de blagues. Mais il y a eu d'autres choses. Je sais pas, Mathieu, je pensais justement du merchandising, mais il y a toutes sortes de choses. Il y a des commerces, il y a des machins,
Ouais, c'est plein de choses, mais c'est vrai qu'ils sont, en fait, le foot, quand il y a le début du foot business, donc fin des années 80, comme disait Brendan avec Tapie, les premières stars, hein, il faut savoir qu'il explose tous les records de transfert. À l'époque, Tapie avec Waddle, par exemple, qui était 40 millions de francs, si je ne dis pas de bêtises. Les gars, ils se disent, mais attends, mais c'est quoi ça ? Mais où on a vu autant d'argent à se faire ? Nous, on galère avec nos machines à sous, nos petits trafics, nos prostituées. Là, il y avait des sommes incroyable, et c'était une sorte de nirvana. Par exemple, aujourd'hui, on va prendre deux agents que tout le monde connaît, deux super agents.
Mino Raiola,
pizzaiolo à la base. Georges Mendes, commercial dans les bagnoles, vendeur de bagnoles. Bah, les mecs aussi, bah, ces gars-là, ils ont senti les filons, c'était des malins, ils y ont été, ils sont vus, il y a possibilité dans ce milieu qui est une sorte de, c'est un western, quoi, c'est la ruée vers l'or à la fin du 19e siècle. Et ben, bah, ouais. Certains voyous, ils se sont dit exactement la même chose. Ils se sont dit, bah, nous, on va se faire aussi de l'argent facile comme ça.
Et puis aussi, on leur a mis parfois le pied à l'étrier, parce que dans l'affaire de Jean-Pierre Papin, qui ne voyait pas un centime d'argent lui revenir alors qu'on commençait à écouler des tas de produits autour de lui, en fait, les gens de l'OM, on nous l'a raconté, ont fait intervenir un voyou qui est allé voir Gilles Berceau, qui lui a dit, bon, maintenant t'es gentil, t'arrêtes tes conneries, tu rends ton contrat, tu arrêtes de l'escroquer. Donc au lieu de porter ça devant les tribunaux, on va dire, ça s'est joué à la bonne franquette avec un voyou. Donc ce voyou à qui après on est redevable, ce voyou pour nous, Moi, je pense que c'est pas un scoop. Non, on va pas dire le nom, mais on le retrouve. Parfois, ça de, on le retrouve après dans d'autres histoires, à jouer les juges de paix. On le retrouve aussi de, probablement avec Fabien Barthez dans cette histoire de chantage en boîte de nuit. Il intervient pour faire cesser le chantage. Donc, c'est pas seulement. On a fait entrer aussi le loup dans la bergerie,
c'était
notamment
ça,
à Marseille.
On ouvre la boîte de Pandore à un moment donné. On fait venir les gens parce qu'on a besoin de régler un problème. Et puis une fois qu'ils sont là, ils partent plus.
C'est un milieu où on va pas forcément, où on va pas forcément effectivement voir les avocats ou la police en premier lieu, quoi. Donc
parce comme qu'il faut pas que ça s'ébruite.
Bah non, mais c'est parce que c'est un milieu très le foot. Faut pas se mentir, ça reste un milieu très très opaque. Hein. Il y a plein de tabous. Par exemple, regardez les affaires de dopage, des choses comme ça. Il y a plein de trucs qui sortent pas dans le foot. Hein. Donc pour reprendre ce que disait Brendan sur Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, quand sa femme l'a foutu dehors, sa femme de l'époque, donc quand il était avec Gilles Berceau, c'est les gens de l'OM, Marc Frattani et son agent Gilles Berceau, c'est eux et Tapie lui-même qu'on gérait la crise conjugale, le divorce, etc., etc. Donc aujourd'hui, comme c'est un milieu encore une fois opaque, on va aller des fois vers les mauvaises personnes. Je pense que c'est beaucoup plus anecdotique. On passe très vite là-dedans, là-dessus dans le livre, mais l'histoire de Souleymane Diawara, donc qui connaît tous les voyous. Alors lui, voilà, il connaît. De Paris à Marseille, il les connaît tous.
Et qui est encore en affaire, j'ai entendu ça.
Et
cette
voilà,
semaine.
Donc qui va passer au tribunal. Bon, il s'en est toujours bien sorti parce que lui, voilà, c'était juste on se dit bonjour, au revoir, on boit un coup, etc. Mais sauf qu'à un moment, il a déconné sur un truc, c'est que il s'est fait escroquer par un garagiste et il a envoyé une équipe. Régler son contentieux. Et il va être au tribunal correctionnel pour ça. Pour tentative de séquestration du garagiste et de sa famille. Donc là, on voit qu'il a pas fait le bon choix. Pourquoi ? Parce qu'on va pas toujours, vers les avocats, vers les bonnes personnes. Et voilà, on s'éloigne un petit peu du magnétisme, mais en même temps, ça, pour moi, c'est aussi ce qui fait qu'il peut prospérer dans le foot. Mais regardez encore Cristiano Ronaldo là, qui a des problèmes, donc des histoires de peut-être de viol qui apparaissent. On voit que ce fameux phénomène MeToo, il commence peut-être dans le foot, mais c'est le dernier secteur, je pense, concerné, hein, en tout cas.
Tu parlais un peu d'Omerta, où les gens n'en parlaient pas beaucoup. Il y a peu de joueurs, finalement, qui ont accepté de vous répondre et d'échanger avec vous autour du sujet. Si ce n'est Patrick Blondeau, c'est quoi l'exception Patrick Blondeau, un petit peu ? Qu'est-ce qui fait qu'il assume plus Il s'en fout.
Alors Patrick Blondeau, c'est Mathieu qui va en parler le mieux parce que c'est lui qui l'a convaincu de nous parler. Mais c'est vrai qu'on a été très surpris et c'est pas une formule, hein, mais finalement on a plus de voyous qui nous parlent de footballeurs et de ce qu'ils ont pu faire dans le football que de footballeurs qui nous parlent des voyous. Alors que on les voit arriver dès 1988. Roland Courbis était proche de Jean de la Brise de Mer. Il y en avait qui participaient aux matchs de première division à l'époque, hein, sur le banc de touche, quoi. Donc vraiment, voilà, c'est un non-dit. Il faut pas en parler. Et reconnaissons à Patrick Blondeau le courage de nous avoir dit des choses. Moi, vraiment, c'était pas ordinaire, effectivement, dans ce milieu, quoi.
Ouais, parce que en fait, comme dit Brendan, que les joueurs en activité, on savait que ça serait quasi mission impossible et que il faudrait.
Les conséquences peuvent être trop importantes.
Voilà,
pour
ils
les
sont
carrières.
Encore en pleine carrière. Mmh. Et on en revient aux enjeux d'image et de.
Pour Karim Benzema.
Et financiers, etc. Donc, elles sont énormes. Donc, on savait sur ça, on n'avait pas fait une croix, mais on savait qu'il faudrait se contenter soit du off. On a eu quelques-uns quand même off, soit des PV, des écoutes, etc. Mais peut-être que Brendan, il a été aussi surpris par ça, c'est les anciens, quoi. À part Courbis, qui fait un peu le fanfaron, et qui dit un peu, peut-être que je me trompe, bon, il dit un peu, il dit du vrai, du pas vrai.
Très belle imitation.
Il mélange, tu vois. Merci, Boris, t'es gentil. Mais non, qui, ouais, il dit
Le problème de Courbis, c'est qu'il s'adapte. Quand on dit quelque chose à Courbis, vous connaissez un tel. Il dit non. Il dit, mais je me dis, vous êtes sûr? Parce que des gens vous ont... Ah oui, en effet, ça me revient.
Voilà, ouais,
mais bon, il, au moins, il reconnaît les choses.
Il a fait des
peu.
Livres aussi. Il
on a l'impression de l'avoir... Quand on lui a parlé, on a l'impression de le placer en garde à vue, en fait. Parce qu'il a l'habitude de la garde à vue, hein, s'il était tout à fait sympathique. Mais en fait, il fallait lui reposer les questions et l'amener à où on voulait l'amener. Parce que sinon, il partait sur la, en fait, il niait, quoi. Non, j'ai jamais vu cette personne. Oh, je l'ai peut-être vu une ou deux fois, quoi. Mais bon, voilà, c'est ça. Je suis pas allé dans cet endroit, à moins que j'ai été bourré, mais enfin, bon, vous voyez. Enfin, c'était quand même assez caricatural. Bon, au moins, enfin, lui, c'est un caractère, donc, ouais, on lui pardonne beaucoup de choses.
Lui, il a même assumé d'avoir mangé sur des transferts. Je me rappelle le transfert d'Ibrahim Abba, qui est passé de...
Bordeaux à Milan.
Lui, c'était de Marseille à Milan. Ouais.
Ah, Marseille,
et avec notamment son fils Stéphane. Donc, bon, lui, Courbis, il est assez cash, mais Dib n'a pas voulu parler. Pardo n'a pas voulu parler. Martez, il ne voulait pas parler. Olmeta, qui fait quand même à chaque fois le gros bras, déclaration, nanana. Il veut pas parler de ce sujet-là. Donc c'est vrai que ça c'était assez surprenant. On se dit les mecs, il y a quand même prescription, quoi. Pardo lui était vraiment touché par ça, hein. Il était ruiné, donc lui il veut plus du tout parler de ça, il est assez cash là-dessus. Mais Casoni, je sais plus si on avait laissé, ça peut être un de ceux qui peut parler, mais c'est vrai que celui qui assume complètement, c'est Patrick Blondeau. Il a toujours été comme ça, c'est une personnalité, quoi. Je sais pas, dans le sud on appelle un personnage comme ça un vaillant. Il a toujours assumé depuis qu'il a 15 ans ses amitiés. Il a toujours été, même quand il était dans le football, par exemple, quand la femme de Francis Lebelge, Lydie, lui dit j'aimerais que tu portes le cercueil de Francis à son enterrement.
Il avait été assassiné sur les Champs-Élysées quelques semaines plus tôt, quoi.
Ouais, voilà. Mais lui, c'est une journaliste de RTL qui l'appelle, qui lui dit voilà, il a été assassiné. Il était en route vers la commanderie au centre d'entraînement. Il était effondré. L'entraîneur lui a dit bon bah tu prends quelques jours, quoi. C'était à Belbringue à l'époque. Donc, comme quoi, voilà, ils s'en cachaient pas. Il avait son calibre parfois dans la voiture. Et donc, quand Lydie lui dit bah peux-tu porter le cercueil, il le fait alors qu'il sait très bien que tout Marseille le sera. Mais dans l'heure, quoi.
Une grosse partie du bouquin se concentre sur Marseille. C'est parce que vous connaissez mieux le sujet ou c'est parce qu'il y a une vraie spécificité de la ville et que...
Parce que Marseille est incontournable. On ne peut pas faire un bouquin sur le football et les bandits. On ne peut pas faire un bouquin sur le football sans Marseille. Sur le football français, on ne peut pas faire un bouquin sur les bandits sans Marseille. Donc, à un moment, on nous retrouve tout, quoi.
La politique avec Bernard Tapie.
Eh oui, parce que tout est lié, en fait. Mmh. C'est ce qu'on explique, nous. Mmh. Et pour la première fois, d'ailleurs. C'est que, en fait, les gens qui ont parié sur Bernard Tapie, manager, enfin président de l'OM, c'était aussi des gens qui espéraient voir Bernard Tapie maire de Marseille. C'était des gens qui ont assuré ces campagnes électorales à Marseille. Donc, tout est lié, quoi. Et on ne se fait pas plaisir avec Marseille. C'est qu'on ne peut pas faire autrement. Comme on disait, l'argent est arrivé en... Enfin, il n'y avait pas que Marseille, puisqu'il y avait Bordeaux aussi à l'époque. Le Matra Racing, mais c'est là où a été concentré le plus d'argent. Donc c'est un milieu, c'est vrai que c'est un milieu, le milieu avec un grand M est historiquement à Marseille. Il part de Marseille dans les années 20, dans les années 30, il va à Pigalle, voilà. Donc c'est forcément lié, quoi. Et Marseille, c'est un gros morceau parce que ils ont été des précurseurs sur les transferts, sur le merchandising, ils ont fait jouer les agents. On sait pas tout, hein. On raconte pas tout et on sait pas tout parce que des gens comme Francis Lebelge, qui était un parrain entre guillemets, parce que c'est discuté, mais enfin en tout cas un caïd important, il s'est intéressé au foot, pas à force. Il a essayé de jouer un peu l'agent à un moment, quoi, des choses comme ça. Donc ils ont été vraiment précurseurs. Marseille, c'est obligatoire au niveau du et on voit aujourd'hui même dans le banditisme, le grand banditisme, les attaques de fourgons, les grosses affaires de stup, il y a la moitié qui ont lieu à Marseille. Donc forcément, c'est incontournable, quoi.
Et le niveau d'entrisme aussi dans les clubs, parce qu'on voit que finalement, on a essayé de ne pas être trop caricatural. Et je pense qu'on n'est pas, heureusement, en France, au même niveau qu'en Serbie, qu'en Bulgarie, que dans certains pays comme ça, où là, il y a vraiment la mafia tient les clubs, fait ce qu'elle veut. Il y a des gens du milieu du foot, voilà, des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants qui se font assassiner. Des matchs truqués à grande échelle, on n'en est pas là du tout en France, hein. On est quand même encore dans un état de droit qui fonctionne bien, mais le niveau d'entrisme sur certains clubs, honnêtement, on l'a constaté vraiment qu'à Marseille et en Corse, hein. Et peut-être un peu sur la Côte d'Azur, mais le vrai niveau d'entrisme. Après, aujourd'hui que les stacks à trois travaillent avec des agents qui sont pas clairs et peut-être avec des gens derrière, ça peut concerner tous les clubs de foot. Par contre, que des voyous, en tout cas avec des CV vraiment très importants, aient eu des bureaux dans le centre administratif du club, qu'il y ait eu des fonctions de dirigeants, qu'ils aient fait la pluie et le beau temps, qu'ils aient fait tous les transferts, qu'ils aient eu même des rejetons aussi dans les centres de formation aussi. Ça, on le voit quand même, on ne l'a vu quand même que dans le Sud. Hein.
Dans le livre, on voit beaucoup qu'il y a des jeux d'influence, en tout cas des pressions pour faire signer des fils d'eux à Marseille ou dans d'autres clubs de la région. C'est quelque chose qui était très courant dans les années 80-90. Encore aujourd'hui?
C'est des affaires des années 2000. Hein. Enfin, nous, on a deux. Il y a l'affaire, Mathieu en parlera, puisque c'est aussi une de ses spécialités. C'est spécialiste mondial de Richard Derrida. Ouais. Mais il y a eu l'affaire Richard Derrida, dont on va parler. Mais aussi, on a le fils d'un parrain, entre guillemets, encore, un caïd de la Brise de Mer de Bastia, donc Guazzelli, qui a signé à Nantes. Donc ça, c'était il y a 6-7 ans, donc c'est pas si vieux que ça, non, c'est des phénomènes plutôt récents qui au contraire illustrent la présence de ces voyous dans les organigrammes qui est capable de peser dans les transferts. C'est pas si ancien que ça comme phénomène, hein.
Ouais, alors ça c'est vrai qu'aujourd'hui ça sera peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui
à Marseille.
En fait,
ou en général dans le foot.
En fait, il y a deux trucs sur le fils d'eux. Le fait de faire grimper son fils d'eux à Derrida ou à la. Bon, il y a aussi le fils de Bastiani à Bastia, le fils de Guazzelli. Bon, ça va être un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui le niveau en France il est tellement incroyable que bon, on peut plus trop faire passer un poney, là, je peux l'expression, pour un cheval de course, quoi. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Derrida, ça serait plus compliqué, je pense, vu le niveau. Je dis ça, mais en même temps, il y a le fils d'un dirigeant de l'OM, centre de formation, qui est maintenant gardien des équipes jeunes et qui monte bien. Peut-être aussi parce qu'il y a papa, mais bon, je vais pas jeter l'opprobre sur cette famille que je connais bien et qui sont adorables. Mais ça peut aider un peu encore le piston. Par contre, aujourd'hui, ce qui va arriver très souvent, et là on l'a vu, je vais rattacher ça à l'actualité, c'est le fils de voyous de cité, peut-être, par exemple. Ou en tout cas, qui a un entourage compliqué. Je vais prendre deux exemples. Bilal Boutoba à Marseille, qui était la pépite du centre de formation qui est sorti en 2016, qui est parti à Séville et là qui va revenir en France. Lui, son cousin était l'un des plus gros narcotrafiquants de Marseille. Donc on a ça. Donc aujourd'hui, il faut quand même être conscient de ça quand on est un dirigeant de club. Je suis président de l'OM. Si j'ai des mecs qui sortent des quartiers de Marseille, il faudra quand même vérifier un petit peu l'entourage, voir un peu la famille quand même. Donc il y a ça. Et il y a aussi, c'est vraiment récent et c'est d'une tristesse infinie, William Gomis, qui était à Saint-Étienne, jeune joueur à Saint-Étienne, qui est retourné à la Seine-sur-Mer après n'avoir eu qu'un contrat amateur à Saint-Étienne et qui s'est fait assassiner là il y a un mois. William Gomis, voilà, il se trouve que sa famille était dans plein d'histoires de entre bandes sur des réseaux de stupes, donc dans ce côté-là du Var. Donc on voit que voilà, le niveau des fils d'eux a peut-être augmenté par rapport à Derrida. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas des liens encore très forts familiaux. Hein.
Ça fait penser aussi à quelque chose qui apparaît dans le livre, et que finalement, quand on veut se détacher ou se sortir un peu du milieu, la solution qui apparaît quand même la plus pertinente, c'est de se mettre au vert et de partir un peu loin. Je pense à Nigo, à un moment qui, voilà, il décroche, il dit moi je veux plus. Alors que on a une enfin dans le livre on voit une période où il tend peut-être à se vanter ou en tout cas d'avoir une certaine fierté à connaître les quartiers. Et puis quand on voit la tragédie familiale qui le frappe, petit à petit, ce discours-là il s'effrite pour dire moi j'ai plus envie. Et je sais plus, c'était au cours d'écoute hein, qu'il apparaît que lui il en peut plus et que tout ce à quoi il aspire c'est de voilà, d'être ailleurs et de qu'il n'y ait plus personne pour faire pression sur lui.
Passons très clairement. Un joueur ou un bon là c'est un manager mais qui n'est pas entouré d'une famille forte est une proie et il y a des transferts donc mais sans rentrer peut-être dans le détail mais il est possible aussi que des gros transferts aient été justifiés par la nécessité d'un joueur de quitter par exemple un club parce que il était justement en proie à une sorte de alors on peut, je sais pas si on peut appeler ça du racket mais c'est un entourage délinquant qui voulait manger hein, avoir sa part du gâteau et donc ce joueur a été transféré quoi. Donc, est-ce que oui, il faut parfois il faut sans doute mieux s'éloigner, mais c'est pas si simple. Hein, je pense déjà il faut pouvoir être transféré et puis il faut réussir à s'extraire des griffes. Hein, parce que en fait, pour travailler sur les voyous, quand un voyou vous rend un service, il faut pas accepter un service de voyou parce que c'est je veux dire vous le rendez à vie quoi. Vous êtes redevable. Donc régler une affaire, avoir en l'occurrence, là, il s'agissait d'un joueur, par exemple, qui a bénéficié de l'aide d'un voyou pour une garçonnière, etc., dans des quartiers chics. Mais c'est un coup, ça, je veux dire. Il y a une complicité qui... ouais, c'est difficile de s'extraire de là, quoi. Une fois qu'on a fait une affaire avec un voyou, il y a un autre joueur, dont on va taire le nom, mais dont on parle dans le bouquin, qui a fanfaronné un jour dans une boîte de nuit en Corse. Il s'est heurté à des nationalistes à l'époque, assez jeunes et péchus, et c'est fini en règlement de compte, en fait. C'est-à-dire que son ami voyou est intervenu, il y a eu une demi-douzaine de morts, voilà, mais cet héritage qui a près de 20 ans, il existe toujours parce que on en parle encore aujourd'hui, il se sent redevable de ce voyou, quoi. Donc, ouais.
En tout cas, ce voyou, il l'a pas oublié, lui.
Il l'a pas oublié, il en parle encore.
Il en parle encore.
Et il lui en veut. Ouais, de lui pas lui être fidèle. Donc,
ouais, lui, il arrive pas, il a pas réussi à ce que tu disais, quitter, tu vois, Maurice, son milieu, quoi. C'est compliqué. Pourtant, ils ne le fréquentent plus. La moitié, ils sont en prison. Mais ils sont toujours un peu assez basques. Hein. Donc, après, effectivement, sur Marseille, on a vu quand même que ce soit le fils d'Héruda, José Anigo, même Boutoba qui est parti à Séville. La situation simplifie un peu quand on s'éloigne de cette ville, comme dit Anigo, qui mange ses enfants. C'est sa grande expression. Et force est de constater qu'elle n'est pas, fausse. Je pense à Yayaoui aussi. Et quand on voit pareil Mehdi Benassia, qui dit souvent que Anigo a plombé sa carrière à l'OM, que voilà, il est dégoûté de ne pas avoir réussi à l'OM.
Avec le père
mais il y avait un rapport conflictuel. Le père de Benassia, c'est un sacré. Ouais, c'est un escroc, il a été condamné pour des faits comme ça, pour du recel aussi d'un braquage de montre d'Aymar Spiguet. Et lui c'est, bah d'ailleurs, il est en froid avec son fils. Et lui, c'est un sacré loustique. Donc Benassia, finalement, d'une certaine façon, ça l'a sauvé d'aller faire ses classes à Clermont, à Tours, de partir à Lorient et l'Udinese. Ouais. Ça l'a sauvé, s'il fait une carrière quand même qui est magnifique, c'est peut-être parce qu'il est parti assez jeune de Marseille. Moi, des fois, il y a certains joueurs, quand ils m'en parlent, est-ce qu'il faut que je vienne à Marseille, quand on a ces questions-là, quand je vois des joueurs qui sont un peu fous, un peu, qui sont instables, je leur souhaite pour eux de ne pas aller à Marseille. Hein. Je leur dis, n'allez pas à Marseille, c'est une ville où il faut être fort. Il y a un contre-exemple, c'est Samir Nasri. Samir Nasri, il était... Lui, il était très très bien entouré à Marseille. Il a eu un père assez admirable et lui, les conneries ont peut-être un peu commencé quand il est parti à Arsenal. Voilà,
ouais, parce que finalement,
c'est le contre-exemple.
Finalement, il revenait à Paris.
Mais finalement, il revenait à Paris, comme beaucoup de footballeurs. Hein. C'est vrai que on parlait tout à l'heure des lieux de rencontre. Il y en a quoi ? Il y en a. On peut vous faire, avec Brennan, on peut vous faire une cartographie des lieux de rencontre des footballeurs. S'il y a quelques endroits, il n'y en a pas beaucoup plus. Hein. Si vous voulez voir Nasser et manger, c'est à la cantine du Faubourg. Si vous voulez savoir où les Bleus sont partis en vacances, ils étaient tous à Miami, avec le fils Kirill Louis-Dreyfus, le fils de l'ancien propriétaire de l'OM Margarita, qui était là aussi. Ils vont tous à Barcelone, à Londres, à Paris. Il n'y a pas 150 endroits. Et donc, parfois, ils font aussi des mauvaises rencontres.
Alors moi, ça m'amène sur une partie où, sur la construction de votre livre, parce que c'est extrêmement bien documenté. On voit sur 40-50 dernières années, il y a beaucoup d'anecdotes, mais aussi beaucoup d'éléments de procédures qui éclairent un petit peu le propos et qui nous permettent de comprendre un peu les enjeux. Alors, comment on construit un livre comme ça ? Est-ce que vous êtes réparti le travail ? Quels sont vos... Alors, on a dit que vous êtes tous les deux journalistes, mais vous avez des spécificités ou c'est des connaissances que vous avez acquis avec le temps qui vous permettent de faire un livre aussi complet ?
Ben merci d'abord, c'est sympa. Ouais, on a essayé de faire quelque chose de complet parce que ça en valait le coup et que c'était riche. Hein, c'est une matière hyper riche. Après, sur la manière dont on a travaillé, en gros, donc on est trois avec Stéphane Selamy. En gros, il y avait un côté plutôt banlieue parisienne qui était réservé à l'un, un côté un peu plus, on va dire, historique. Et puis un côté marseillais, bon là c'est pas un scoop, c'est plutôt Mathieu Grégoire qui s'en est occupé étant le sur place et on va dire le plus implanté là-bas. Après en fait c'était selon aussi un peu ce qu'on avait envie de faire, les chapitres qu'on sentait bien, voilà et puis en fait on a beaucoup travaillé ensemble, on a fait des rendez-vous souvent à deux. Pas à trois, je crois pas, je me souviens plus, mais souvent à deux. Et en fait, il y avait un qui écrivait ou voilà. On a vraiment. Je pense que chacun a travaillé sur chaque thème en fait à peu près. Hein. Mais après, il y avait des dominantes, quoi, on va dire.
Ouais, on s'est réparti les histoires et les sections. Et puis après, quand il fallait enrichir un chapitre, on s'appelait. Moi, je connaissais le Derouda des années 2000-2010, en connaissant très bien son fils et un petit peu le père. Donc ça, je connaissais. Je ne connaissais pas le Derouda historique, l'enfance de l'art, les premiers braquages. Et ça, c'est Brendan qui est venu apporter sa pierre sur tout ce côté-là. Donc, et puis après, il fallait essayer d'homogénéiser les chapitres. On se rapportait des fois, on regardait les chapitres des autres, on disait, tiens, il manque telle anecdote, ça serait bien, oublie pas de la glisser en plus. Donc voilà, ouais, ça a pas mal fonctionné.
Dans une interview, alors je ne sais plus lequel d'entre vous disait que mettait l'accent sur la fascination qui pouvait exister entre les footballeurs et les voyous, et surtout la réciproque. Et moi, il y a une question que je me posais, c'était est-ce qu'il ne faut pas aussi de la fascination pour les voyous quand on écrit un livre comme ça pour pouvoir le porter ?
Alors ouais, fascination. Donc fascination d'abord pour ce monde, pour les voyous un peu moins parce que c'est un milieu hyper violent. C'est pas un milieu de bisounours. Hein, c'est un milieu où on s'entretue. D'ailleurs dans le livre, je pense qu'il y a la moitié des. Enfin, je devrais pas rire, mais malheureusement c'est les accidents du travail. Hein, c'est la moitié des personnes qui sont évoquées sont mortes brutalement. Donc voilà, c'est pas un monde sympa. On se fait tuer par son meilleur ami ou on se fait amener en belle, c'est-à-dire piégé par son meilleur ami. Donc non, pas fascination pour les gens. Fascination pour les voyous, fascination pour ce milieu probablement parce que c'est quand même des gens qui vivent autrement quoi, qui ont pas les mêmes barrières en fait, qui ont pas les mêmes codes moraux quoi. Donc ça c'est sûr que il y a eu un intérêt, un goût pour ce milieu-là. Et puis c'est vrai que Il y a des, ce qu'on appelle des figures du banditisme. C'est des gens qui ont marqué leur spécialité. On parle d'un certain nombre de casses, de braquages, etc. Et qui expliquent, on ne parle pas de ces braquages seulement pour se faire plaisir, mais parce que quand vous avez quelqu'un comme Richard Derrida, d'ailleurs, dont personne, enfin avant nous, ne détaillait véritablement le pédigré. Mais pourquoi quelqu'un comme Richard Derrida, quand il va à la commanderie, il fait peur, en fait, quoi. Ben, c'est simplement, c'est son passé, quoi. C'est son braquage, un certain nombre d'actes, comment dire, criminels qu'on peut pas détailler pour des raisons légales. Mais voilà, voilà pourquoi il fait peur, quoi. Donc nous, on voulait expliquer ça. Et effectivement, ça passait par les faits d'armes qui sont, bon, peut-être qu'au fond de nous, il y a toujours des petits enfants qui jouent dans la cour de récréation et dans la cour de récréation aux gendarmes et aux voleurs, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, il y a quelque chose, c'est une matière riche et assez fascinante.
Ouais. Moi c'est pas la fascination pour les voyous. J'étais même abattu quand on a certaines personnes qu'on connaît qui sont victimes d'un règlement de compte. Alors indirectement comme le fils de José Anigo, c'est des choses qui font mal au cœur, hein, même si voilà, on connaît le père, on se le supporte au quotidien et des fois Dieu sait si c'était compliqué parce que c'est un sacré, mais on peut que
on souhaite ça à personne.
Et un des demi-frères de José d'Adrien Anigo, je fais des soirées avec lui. On avait des amis en commun, donc ça, c'est, il y a pas de fascination, au contraire, plus une vraie tristesse de les voir. Je pense à Moussa Bakary aussi, l'ami de Ribéry, que je connaissais dans le foot et qui un jour tombe pour trafic de stup. Bon ben on est quand même emmerdé pour lui, quoi. Mais par contre, fascination, ça vraiment pour à Marseille, pour la porosité de tout ça, quoi, en fait. Et ça, c'est parce que journalistiquement, c'est la ville la plus kiffante. Moi, je suis venu à Marseille pour couvrir l'OM et j'ai rencontré des journalistes qui m'ont appris à aller voir le dessous des cartes et en fait voir toutes les connexions derrière. Alors soit on peut regarder un match et dire voilà, l'OM a joué en 4-3-3, but de Mamadou Niang et tout, voilà, c'est terminé, on rentre chez soi. Soit on creuse un peu, on voit les guerres entre Anigo et Deschamps, les acteurs qui rentrent en compte, le Bernès, les passés qu'ils ont, les commissions, le côté, tout ce que représente l'institution OM à Marseille, tout ce qui gravite autour. Et ça, c'est totalement dingue à Marseille. C'est vraiment dingue. Et tout à l'heure, on parlait des menaces et des pressions. Moi, j'en ai pas pour l'instant reçu, mais donc je vous disais que dimanche soir, après le match contre OM Caen, je vais dîner dans un restaurant qui est dans le livre, et le patron me dit ouais, donc faut pas trop écrire. Un des patrons me dit faut pas trop écrire sur. On n'écrit plus sur Grimaudo, c'est mieux, etc. Et puis on discute et tout. Et en fait, il se trouve que c'était le meilleur ami du patron, Grimaudo. Et qu'il a vécu les derniers instants de cette personne-là. Donc ça, c'est, il le racontait de façon, vraiment en tant qu'ami, quoi. Il n'y avait pas de menace, pas de pression, rien. Et c'était pas sulfureux, c'était pas vulgaire, quoi. Et ça, à Marseille, on voit ça, je pense qu'on voit quand même pas beaucoup ça ailleurs, peut-être en Corse, mais le degré d'interconnexion entre les flics, les journalistes, les magistrats, les joueurs de foot, les politiques. Brandon parlait tout à l'heure de la politique, les Barési. Il y avait un frère Barési qui faisait les gros bras pour la campagne de Muselier. L'autre faisait les gros bras pour la campagne de Guérini. Donc c'est bien, il y avait tout le spectre politique, quoi. Ça, vous voyez ça nulle part ailleurs, quoi.
Alors justement, comment on explique que le milieu du banditisme parisien, il soit pas aussi impliqué dans la vie des clubs, parce que tu fais référence souvent au Hornec, donc ça c'est le 93. Pourtant c'est une famille qui est très connue, mais on les voit pas plus que ils gravitent un peu, enfin ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais ils sont jamais vraiment dans les histoires.
Parce que c'est certainement beaucoup plus dur de pénétrer dans un club comme le PSG. Mais en revanche, nous d'ailleurs au départ on pensait pas pouvoir travailler vraiment sur le PSG, c'est quand on s'est rendu compte que tel type incontournable au niveau du Parc des Princes, sur les joueurs, dont on a fait un petit chat-pit sur lui, est un protégé finalement d'un des frères Hornec, qu'on s'est dit, tiens, il y a une matière intéressante. Mais ouais, c'est plus diffus. Le banditisme en région parisienne, c'est moins. Il y a quelques lieux comme ça, mais il est moins présent, il est moins c'est plus grand, il y a plus de barrières je pense psychologiques, barrières sociales, culturelles qui font que la pénétration du milieu dans tous les c'est ce que vrai ce que disait Mathieu, c'est dans tous les strates de la société est plus difficile quoi. Même si il est existant et je pense que il y aura peut-être un tome 2 mais on n'a pas réussi à aller tout à fait au bout de ce qu'on aurait pu faire sur le PSG. Parce que c'est une remarque un peu qui m'a touché moi, mais on a eu beaucoup de commentaires. Pourquoi vous vous intéressez qu'à Marseille? Pourquoi vous parlez pas du PSG, du Qatar? Faites un bouquin sur le Qatar, etc. Mais nous, c'était pas notre propos. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué le PSG et je pense pas qu'il y ait de bandits patentés qui aient vraiment une présence comme ça au Parc des Princes comme ça a pu exister ou existe parfois encore à l'OM quoi.
Et puis il y a une question assez simple aussi, enfin une réponse assez simple que moi je dis souvent à mes amis marseillais, c'est qu'en fait il y a à Marseille, il y a eu beaucoup d'instructions sur Marseille. Il y a eu, ça fait presque 30 ans en fait que Marseille est sous le feu nourri des juges, des policiers, que ce soit de la financière ou même des offices centraux parisiens. Donc on a un matériau incroyable sur Marseille. On a des tonnes de PV, de dossiers, d'écoutes téléphoniques. Donc, comme disait Pape Diouf, à Marseille, le moindre écart, il finit dans le bureau du juge. Alors que vous êtes à Troyes ou à Brest, encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez, toutes les malversations que vous voulez, ça passera crème. À Marseille, il y a effectivement on en revient à la culture peut-être de la bureaucratie, c'est une ville où peut-être que les pouvoirs publics tapent plus fort ou en tout cas sont en tout cas très impliqués dans la transparence quoi. En tout cas peut-être plus sur l'OM. En tout cas, on a ça sur Paris. Pour terminer sur Paris, Paris n'a été au centre que d'une histoire. C'était avec les transferts. C'était sur l'URSSAF en fait. Nike et l'URSSAF avec Perper qui était à l'époque BG ou président, je sais plus. Ouais, pour Boscovitch, Okocha, il y a eu pas mal de noms d'agents qui ont été. Mais on était sur de l'URSSAF. Hein,
ouais, sauf que voilà. Justement, ce que je voulais dire, c'est que à l'occasion des transferts du PSG, on a quand même vu pointer leur nez Gilles Berceau et Jean-Luc Barrézy, qui faisaient des transferts avec le PSG très facilement, qui étaient très à l'aise. Il y a des écoutes qu'on publie d'ailleurs inédites où ils parlent de Luis Fernandez, etc. Enfin, ils ont leur point d'entrée, ils sont à l'aise au PSG. Bon, ils n'ont pas leur bureau comme ils avaient à l'époque rue Negresco, l'ancien siège de l'OM, mais ils n'ont aucun problème pour toucher Luis Fernandez, telle personne, etc. Ils connaissent les organigrammes et tout. Donc en fait, leur action, elle existait au PSG. Elle a peut-être été plus freinée, on va dire, quoi. Mais ils travaillaient très bien avec le PSG à une époque. Hein.
Et après, vous savez, moi, pareil sur Paris. Moi, je donne un exemple assez clair, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un club, c'est un club étatique, hein. Faut pas se mentir, c'est pas un club classique. C'est le Qatar qui gère tout et on est passé à un niveau encore au-dessus dans les personnages en fait. C'est-à-dire que le bandit aujourd'hui, faisons un peu de fiction. Je suis un voyou parisien aujourd'hui. Qui je vais aller toucher? Moi, ce que je fais, c'est que je vais ratisser les banlieues, les cités, et je vois, comme disait Brandon tout à l'heure, je vais aller sur les petites pépites, les mecs comme ça, et je vais aller sur des jeunes du centre de formation de Paris, et après, je m'associe avec un gros agent. Mais, et puis après, c'est parti, quoi. On s'arrange avec un gros agent.
Ce que vous appelez les hommes de paille ou pas du tout?
Non, ça peut être un vrai agent. Pas forcément.
Il s'associe vraiment à un agent en place et il lui ramène en fait.
Voilà, c'est ça. Je peux faire le rabatteur.
Histoire de prendre une commission.
Voilà, exactement. Puis on se partage. Moi, je tiens le joueur et toi, tu deals avec Paris, avec Nasser. Quoi. Voilà, je donne vraiment, on est dans la fiction. Donc aujourd'hui, je suis plus comme ça. Parce que les gros transferts de Paris, si on prend le cas de Neymar par exemple, là, on est dans une
pinise à vie.
Là, on est sur les super agents avec derrière, mais des choses assez terrible aussi, avec des intermédiaires. Il y en a, il organise la visite médicale de Neymar à Porto, il touche 100 000 euros. Il y en a un autre, il est uruguayen, c'est le mentor de Zahavi, il a 85 ans, il n'a pas bougé de son rocking chair, il touche 500 000 euros. Il y a des commissions qui partent, je ne sais plus combien Neymar, hein, 10 ou 20 millions d'euros qui partent dans tous les sens, ça arrose tout le monde. Là, on est quand même sur des... Tu vois, sur du blanchiment, il y a beaucoup de trucs qui sont pas très clairs, qui mènent aussi à la TPO, l'achat de parties de certains joueurs, les fonds d'investissement, les fonds de pension. Bref, je vais pas détailler parce que là, on s'éloigne, justement, on est plus dans le banditisme, on est dans la haute délinquance, on peut aller vers la haute délinquance financière. Donc, tu vois, c'est pas les mêmes sphères. Paris est dans cette sphère-là, quoi.
Est-ce que c'est pas ça, justement, le basculement? C'est que maintenant, quand on a un club comme le PSG, il y a plus de place pour les bandits historiques. Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'on ne tend pas aussi à ça à Marseille avec le rachat par McCourt? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, on a l'impression, d'avoir moins de liens et moins de porosité, en tout cas entre le milieu historique et le club aussi, parce que si on veut être champion, enfin, si on veut aller au bout du Champion Project, on a compris qu'il y a des fonctionnements qui ne peuvent plus perdurer.
Ouais, parce que aussi il y avait des choses extrêmement artisanales au niveau des voyous marseillais à l'époque des transferts sous Robert Louis Dreyfus. Des gens comme Gilbert Sceaux allaient décaisser 1 million d'euros en liquide à Genève. Et après ils envoyaient ça par exemple en Corse. Mais il y avait les autres agents qui ont travaillé à la même époque que lui. Ça partait dans tous les sens, ça partait les commissions sur les transferts partaient au Luxembourg, etc. C'était blanchi quasiment immédiatement et ils n'ont jamais réussi à prouver quoi que ce soit. C'est vrai que il y a un côté un peu artisanal des voyous. Après, pour eux, tout le défi c'est d'être capable de monter dans une comme disait Mathieu, dans une sphère de blanchiment international. Et là, effectivement, ça demande d'autres capacités, d'autres relais. Mmh. Et on n'est plus entre Genève et la Suisse, on est dans le monde entier. Mais après, pour ne pas le citer, mais Jean-Luc Barrésie était quand même installé à Dubaï. C'est une plaque tournante financière.
Du foot, tous les agents sont là maintenant.
Voilà. Donc ils atteignent un niveau, ils se mettent à niveau, on va dire.
Ouais, ils se mettent à niveau. Ils sont, je pense aussi, alors c'est pas un bandit, mais Willy McKay, qui est un historique, qui faisait tous les transferts de PSG, Marseille, qui était un dégraisseur, comme on disait. Quand il fallait se débarrasser d'un LK à Paris, en début des années 2000, etc., on appelait Willy, quoi. C'était Sauver Willy, il arrivait et il s'occupait de...
C'était son surnom
C'était pas trop son surnom, mais je l'aime bien, Willy, c'est un phénomène. Bah, il est encore arrivé pour pour sauver le mercato de l'OM. Il a sauvé le mercato de l'OM, Willy McKay, en permettant à l'OM de vendre Anguissa à Fulham pour 30 millions d'euros. Ouais. Donc, il faut enlever un peu toutes les commissions, les trucs et tout. Il reste 24 millions dans les caisses de l'OM. Et donc, c'est, pour l'OM, ça a permis d'acheter Strootman après. Et il faut savoir que McKay, quand même, c'est les plus belles heures du n'importe quoi dans le foot. Hein. Il est dans les trucs du PSG. Il avait été entendu par Van Orenbeek. Il est dans les histoires de l'OM, pareil. Je pense que c'est le fait qu'il est effectivement un étranger, mais qu'il est écossais, pardon, faut pas se tromper. Qui l'a sauvé, mais ses deux associés, quand il a fallu sortir à Loudiara, Loïc Rémy, etc., il était avec deux agents qui eux ont été placés en garde à vue en novembre 2014. Et donc lui s'en est sorti un petit peu par miracle. Et aujourd'hui, bah, il a aussi permis la venue de Payet à l'OM. Donc le foot.
Le retour ou la première fois?
Le retour.
D'accord.
Le retour.
Ok.
Il est là retour, et à chaque fois, il prend une commission importante. Donc, vous voyez, les directions changent, mais les pratiques, elles perdurent. Donc, à l'OM, on est quand même moins dans la voyoucratie à l'ancienne. Tous les agents un peu historiques, ou en tout cas les non connus, ça fait depuis 2013 qu'ils bossent plus sur l'OM. Donc, on voit qu'il y a quand même un ménage de fait. Et effectivement, c'est aux voyous de s'adapter parce qu'aujourd'hui, pour Marseille, c'est un enjeu d'image. Mais je vais prendre un exemple tout bête, c'est celui de Nemanja Radonjić, qui vient de signer à l'OM. Donc, Nemanja Radonjić, il faut savoir qu'il joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. L'OM a quand même fait 12 millions plus 2 de bonus de transfert, ce qui est une belle somme. Il faut savoir que là-bas, mais l'Étoile Rouge de Belgrade, on est donc là dans un pays là où c'est autre chose que la France sur le banditisme. Et le président de l'Étoile Rouge de Belgrade, Terzic, qui est un mec assez marrant, lui était président de la Fédération Serbe, il a été recherché par Interpol, il est parti aux États-Unis, il a fait n'importe quoi, il a failli être radié de sa fédération, enfin, donc, et il a des gens extrêmement peu clairs autour de lui. Et à mon avis, là, les 14 millions de Radonjić, il y en a peut-être un ou deux qui vont finir dans les caisses réelles de l'Étoile Rouge. Hein. Après, ça va arroser tout le pays. Donc, si c'est pour passer de Jean-Luc Barresi à Terzic, j'ai envie de dire, bon, bah, le foot nous réserve encore de belles surprises. Quoi. Mais c'est vrai qu'en enjeu d'image, c'est pas pareil.
Moi, je suis d'origine serbe, supporter de l'Étoile Rouge de Belgrade. Quand je l'ai vu signer à Marseille, mes potes marseillais se sont retournés vers moi en disant « Alors ?» Moi, j'ai dit, alors, je ne comprends pas. J'avoue, sportivement, je ne comprends pas. Mais après, il y a aussi l'histoire du prix. Et c'est là que, quand on a un éclairage un peu différent, on saisit un peu mieux les enjeux, en tout cas.
C'était un joueur qui était mis sur le marché par l'Étoile Rouge. Bon, il fallait payer une partie de la Roma, une partie à la Roma aussi, parce qu'il avait été en copropriété. Mais moi, je sais qu'il a été proposé à Nice à 6-7 millions d'euros. Donc, il est parti pour le double à Marseille. Donc, après, vous avez beaucoup d'argent qui va circuler. Là, il y a la hausse des droits télé dans 2 ans, il y a encore beaucoup d'argent qui va circuler. Donc, effectivement, ça va bénéficier à qui ? Il faudra, même si Marseille et Paris sont dans des sphères un peu différentes, il y a quand même beaucoup d'argent qui va circuler. Si les voyous se mettent un peu à la page, comme dit Brendan, et on voit qu'ils en sont capables sur des arnaques à la taxe carbone ou des choses comme
exactement.
Ça, et ben, certains seront capables de flairer encore cette poule aux œufs d'or. Hein.
En fait, leur gros problème à eux, c'est leur casier judiciaire. Parce que on a affaire à des affairistes, parfois internationaux, qui n'ont pas les tâches que peuvent avoir certains voyous ou proches de voyous en France, qui sont connus. Quoi. Mais en fait, ils sont dans leur pratique, ils ne sont pas si éloignés que ça, effectivement.
Ouais. Et après, pour terminer sur cette question précise, c'est, ils peuvent, même s'ils ne sont pas de grande envergure, il y aura toujours plein de choses à gérer. On en revient à l'entourage des footballeurs, tout ce qui est la protection, tous les services de voiturier. Tu sais, c'est la mode aussi des concierges de luxe, des choses comme ça. Il faut arranger... parfois, il ne faut pas se mentir, il y a des mecs qui arrangent la double, la triple ou la quadruple vie du footballeur. Hein. Donc ces gars-là, ils auront toujours pignon sur rue, donc ils pourront trouver quand même une façon de ramasser les miettes du foot.
C'est ce que j'allais te demander, c'est est-ce que finalement, ils s'adaptent, enfin, leur plus grande force, ce n'est pas leur capacité d'adaptation aux évolutions du football. C'est-à-dire qu'il y a 30 ou 40 ans, ils se mettaient là où ils pouvaient se mettre. En fait. On parlait de la porosité du milieu marseillais, ils ont finalement occupé des places qui étaient un peu vacantes, où on leur a permis de s'installer.
Tout à fait.
Aujourd'hui, le football change, ils évoluent avec lui, et ils vont être agents, et on voit le cas de Moussa Sissoko, où du coup, on n'est plus du tout sur la même physionomie, en tout cas, de personnages qui gravitent autour du foot, et là, au contraire, le football, lui, permet en tout cas de s'émanciper d'un milieu. On va créer des nouveaux boulots de conciergerie, etc.
Oui,
donc c'est s'adapter.
Et un exemple assez facile, c'est quand il y a deux agents qui sont, par exemple, vous êtes agent et vous voulez piquer le joueur d'un autre. Ce qui arrive très régulièrement.
Hein, Moussa Sissoko.
Moussa Sissoko, il n'avait pas Dembélé au départ. Il y a quand même
des grosses histoires autour de Matuidi. Enfin, je pensais à ça quand je disais Bernès et Raiola.
Il y a ça sur Matuidi, mais il y a plein de joueurs comme ça qui sont les cibles de convoitises entre agents, quoi. Bah, il y a certains agents qui vont les amadouer avec des offres d'un club étranger, en allant le voir en disant « quitte ton agent, mon petit, moi j'ai une offre du Bayern de Munich ». Il y en a d'autres, ils vont peut-être passer par des moyens un peu plus obscurs. Ça peut être, il y a des agents qui jetaient des filles, plein de filles dans les pattes de certains footeux pour les récupérer, et d'autres qui peuvent aussi faire appel à des équipes. Voilà, tout simplement.
C'est quoi faire
une équipe de costauds, de gros bras, de
d'accord. Ouais. Pour menacer directement.
Pour menacer l'autre agent, bien sûr. Ça peut arriver. Ou en tout cas faire croire qu'il peut menacer. Par exemple, je vais aller sur Bernès. Bernès, il s'accommode d'un truc depuis des années. C'est que il y a une rumeur dans le milieu, invérifiable. Enfin, moi, j'ai essayé de la vérifier, j'ai jamais réussi. Mais tout le monde la connaît, c'est que Bernès, il y a une équipe de Corse derrière lui. Pour moi, je pense que c'est des fantasmes. Mais
mythes et légendes pour entretenir.
Mais en même temps,
truc,
mais ça l'aide bien aussi, parce que quand il est face à des agents ou que ce soit Jean-Luc Barézi qui a été son rival commercial pendant des années, ou aujourd'hui des jeunes agents un peu plus aux dents longues, bah les mecs, s'ils entendent que Bernès, il y a des Corses derrière, bah ça va peut-être les refroidir aussi. Donc voilà, ils peuvent aussi apparaître. Dans ces eaux-là, enfin, il y a toujours une place, en fait. De toute façon, il y a de l'argent, donc...
Tant qu'il y aura de l'argent, il y aura des voyous, enfin, agents ou pas agents, mais il y aura des voyous dans le foot. C'est un peu ça, la conclusion.
Ah ben, ils sont pas dans le pentathlon moderne ou, ou dans la natation, hein. Non, mais de fait. Hein. Donc, moi, j'ai fait ces sports-là pour l'IB, j'ai fait des papiers sur le BMX... j'ai fait un peu tous les sports, même Banane et un coach de rugby émérite, et il pourra vous en parler. Ils sont quand même pas, il n'y a pas les liens aussi forts, quoi. Non, c'est vraiment que c'est une industrie du spectacle, le foot. Hein. Moi, je vois plus ça comme ça, en fait, qu'ils sont là-dedans parce que c'est comme ils traînent autour des gros rappeurs, des rockstars par le passé, enfin voilà, des gens, parce que c'est le showbiz, quoi, le foot.
Ben, je vous remercie pour cet entretien et je vous invite tous et toutes à aller lire Les Parrains du foot. Et je vous remercie d'avoir été présent dans cet épisode de Banquette. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Un tome 2.
Un tome 2.
Un tome 2.
Un jour, ouais. Peut-être. Il y a de la matière, ouais.
C'est toujours sur le... Les Parrains du foot ou faire évoluer différemment ou à l'international
Je pense qu'on a touché du doigt des nouveaux phénomènes, notamment sur les bandits de cité, quoi. Et je pense que ça va être, on pense hein, tous les trois que ça va être un phénomène voilà émergent, quoi, qui va continuer, quoi.
Ouais, on va surveiller de près comme Didier Deschamps. Qui les a avertis publiquement. Il a remis une couche hier sur Benjamin Mendy, plutôt sur son hygiène de vie, mais il les a avertis aussi. On va surveiller les champions du monde, parce que c'est des jeunes mecs qui vont être livrés à toutes les sollicitations, qu'elles soient médiatiques, un passage chez Hanouna, à des trucs un peu moins clairs, avec que ce soit filles, entourage, etc., etc. Il faudra, eux, qu'ils se mettent des vraies sécurités. Voilà, donc nous, on va suivre ça attentivement, ouais. Comme Didier Deschamps.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes choses pour Les Parrains du foot et puis pour le tome 2, alors.
Merci.
Merci,
merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci à Mathieu Grégoire et à Brendan Kemet d'avoir accepté notre invitation. Si vous souhaitez réagir à cet épisode, comme d'habitude, ça se passe sur les réseaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et s'il ne vous a pas plu, mettez-nous quand même 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous ne voulez pas qu'on fasse appel à nos contacts dans les milieux du banditisme. Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par Boris Radochtik et Abdallah Swadri. Générique par Aurore Meilleur-Mailleux. Musique par Méhari. Montage et mixage par Thibaut Delage de l'Arrière-Boutique. Coordination par Laura Cuissard.